Est-ce qu'ils sont ils, elles, là? Salut les pirates, est-ce que vous m'entendez?
Croyez vraiment que les pirates n'auront bientôt plus droit de rêver?
Prêts les enfants?
Oui, capitaine!
J'ai pas entendu!
Oui, capitaine!
Wow.
Radio.
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 Pirate! Allez, j'espère que tout le monde m'entend bien. Voilà, si vous pouvez confirmer. Super, on est super contentes d'être là toutes les deux avec, avec Adeline qui est là aussi.
Salut!
Et donc voilà, ce soir on va parler d'éducation populaire, mais pas seulement. Enfin, en tout cas, on verra que c'est lié à pas mal d'autres trucs. Et donc voilà, je suis avec Adeline de l'Épinay, qui est une militante de l'éducation populaire et une militante tout court. En fait, elle va en reparler après. Et c'est l'autrice d'un livre dont j'ai pas mal parlé sur Instagram pour celles et ceux qui me suivent, qui s'intitule « Organisons-nous, manuel critique » et qui est paru aux éditions Hors d'atteinte. Donc on fera aussi référence un petit peu au livre de temps en temps. On espère que ça va vous donner peut-être aussi envie de le lire. Et on va parler voilà, un peu des enjeux qui sont dans le livre pendant cette émission. Alors Adeline, peut-être je te laisse te présenter un petit peu.
Ouais, ok. Bah, déjà, merci beaucoup Irène de m'avoir invitée. Ça me fait super plaisir d'être là ce soir sur Radio Pirate, qui est un endroit absolument génial, je trouve. Et puis de discuter avec toi Irène, parce que je pense que justement tu as une pratique et un point de vue sur toutes ces questions-là qui est super intéressant, donc ça me fait plaisir qu'on soit en dialogue là-dessus. Et moi du coup, en effet, voilà, je suis plutôt au milieu éducation populaire, alors on verra un peu ce que ça veut dire, parce que ça veut tout et rien dire. Mais voilà, moi j'ai grandi dans des milieux un peu pédagogie de l'autonomie, du collectif, et puis aujourd'hui je travaille dans l'associatif, je suis militante communiste libertaire. Et voilà, après moi, mon parcours, moi, j'ai été engagée politiquement assez tard, en fait, et syndicalement encore plus tard, parce que travaillant dans l'associatif, il n'y a pas beaucoup d'actions syndicales. Alors maintenant, je m'y mets, mais voilà. Et voilà, je suis arrivée, du coup, à l'éducation populaire. Au début, j'étais là-dedans sans trop savoir que ça s'appelait comme ça. Et puis, petit à petit, j'y suis arrivée, en fait, en même temps que je me suis engagée politiquement sur des positions libertaires. Parce que pour moi, éducation populaire et pratique libertaire, c'est assez, ça va vraiment ensemble. C'est-à-dire, c'est sur des pratiques à la fois qui mettent beaucoup en lien, à la fois l'autonomie et le collectif, l'émancipation, ne pas séparer l'émancipation de la lutte, etc. Enfin bon, on en reparlera. Et voilà, et puis à la fois, dans mon parcours, en tant que travailleuse associative, j'ai essayé de mettre ça en pratique, notamment je suis formatrice pour les métiers du travail social, de l'animation, pour essayer d'exercer ces métiers-là de la façon la plus émancipatrice possible, parce que c'est des métiers qui peuvent être de l'encadrement social, du contrôle social, mais qui ont aussi des marges de manœuvre en termes d'émancipation. Mais voilà, c'est enfin forcément dans la sphère du travail, c'est toujours limité les possibilités de faire des choses. Et du coup, moi, j'ai découvert une pratique qui s'appelle le community organizing, qui venait des États-Unis et qui faisait un peu causer dans les milieux de la participation, de la démocratie, du développement du pouvoir d'agir, voilà, dans le travail social où j'étais. Et ça m'avait semblé poser plein de questions, mais à la fois poser peut-être des questions intéressantes à fouiller. Donc, j'ai essayé de pratiquer ça pendant 2 ans à Aubervilliers. Donc, on verra tout à l'heure ce que c'est un peu ces pratiques-là. Mais en tout cas, c'est des pratiques qui m'ont posé plein de questions. Et c'est de ça qu'est né le bouquin sur comment est-ce qu'on fait le lien entre éducation populaire et les luttes au mieux, comment on travaille cette tension-là dans nos pratiques au quotidien, voilà, quand on essaie d'agir, de lutter tout en construisant de l'émancipation, de la transformation sociale, etc.
Super, ouais, j'en profite pour préciser que moi, j'ai même pas pensé à me présenter, mais du coup, je précise que moi aussi, je suis militante communiste libertaire, donc voilà, c'est vrai qu'on a ça en commun, et du coup, je pense que, oui, effectivement, on a des questionnements communs. Par contre, moi, j'ai pas du tout cette expérience donc cette expertise dans, ni niveau éducation populaire, ni niveau organizing. Mais par contre, c'est des choses qui me... qui, comment dire, des questions qui m'agitent aussi parce que j'ai eu le sentiment à plusieurs moments dans mes expériences militantes que c'était un peu ce type de démarche qui manquait. Et voilà, on y reviendra un petit peu plus tard, mais c'est aussi de ça qu'on va parler ici. Donc, dans ton livre, je présente en quelques phrases pour les personnes qui nous écoutent. Dans son livre, Adeline, elle part en fait de cette comparaison entre les pratiques d'éducation populaire, entre guillemets, à la française, en tout cas telles qu'on peut les connaître en France, et ces pratiques d'organizing qui sont plutôt pratiquées aux États-Unis notamment. Elle les compare, elle analyse un peu leurs limites, leurs avantages, etc. Et ça, c'est sur le début du livre. Et ensuite, à partir de cette réflexion, Adeline, tu proposes des pistes assez concrètes, en fait, pour les collectifs politiques autour de différents axes. Alors, ça va parler de comment se regrouper et développer du collectif, comment construire une culture de l'émancipation commune, comment s'organiser démocratiquement dans nos organisations, quel rapport on entretient avec le pouvoir, avec un peu ce schéma, est-ce qu'on est dans les institutions, avec, contre, en dehors. Et puis, dans ton livre, il y a aussi des petits encadrés de temps en temps avec des petits rappels théoriques ou historiques, mais vraiment au service de cette réflexion plutôt pratique. Donc, c'est de là que vient son sous-titre de manuel critique. Ça reste quand même un peu un manuel, même si tu précises que tu donnes pas un guide clé en main de l'organisation politique, hein, que c'est plutôt des pistes. Mais donc, pour la présentation générale du livre. Et donc, Adeline, est-ce que tu peux nous dire un peu plus, qu'est-ce qui vraiment qui t'a animé, comment est née l'idée de ce livre et sur quoi tu voulais mettre le doigt là-dessus en commençant à l'écrire?
Moi, du coup, en fait, l'écriture de ce livre, à la base, c'était pas du tout, écrit dans mon parcours que j'allais un jour écrire un livre, quoi. Ça a plutôt été la nécessité de prendre du recul sur les pratiques que j'avais eues. Et en fait, sur les difficultés que j'avais eues dans mes pratiques et qui ont fait que... Enfin, je me suis demandé comment ça se fait que je suis tombée dans le panneau, que j'ai eu autant de difficultés, qu'est-ce que j'ai pas vu, comment j'aurais dû faire. Enfin, voilà, plein de questions, en fait, qu'on est nombreuses et nombreux à se poser. Et du coup, j'ai eu j'ai réussi à choper une bourse Fulbright pour partir aux États-Unis pour rencontrer, j'ai fait quasiment une centaine d'entretiens avec des militants là-bas et des militantes qui s'appellent des organizers là-bas, on en reparlera, mais dans le bouquin, comme tu le disais, ça parle de comment se regrouper, comment machin. Le bouquin, évidemment, il n'apporte pas de réponse à ces questions-là. J'ai essayé d'éclaircir, de poser, parce que j'avais besoin de les poser pour moi, de poser dans le bouquin les questions qui se posent quand on essaie de faire ça. Et toutes les tensions qui existent quand on essaie de se regrouper largement, ça veut dire on se regroupe jusqu'où. Il y a plein de questions comme ça qui se posent forcément et à toutes et tous. Et moi, ces questions-là, du coup, je suis allée les poser à des militants, des militantes, évidemment français et françaises, mais aussi aux États-Unis, en sachant que c'est vrai que la culture, la façon de militer, la conception de qu'est-ce que c'est que militer, aux États-Unis, moi, j'ai découvert une conception assez différente de celle que je connaissais en France. Qui était aussi une conception que j'avais découverte parce que, comme je l'ai dit, moi, je suis rentrée en militantisme politique assez tard et du coup, j'ai pas été biberonnée avec ça. J'ai vraiment appris quand j'étais déjà assez grande et donc, en ayant conscience d'apprendre des pratiques des autres. Et du coup, ça m'a permis de poser ces questions de façon peut-être un peu naïve, c'est-à-dire de partager les questions que moi je me posais et qu'en fait tout le monde se pose, et d'essayer de regrouper ces tensions-là dans le bouquin pour se demander en fait c'est quoi être efficace, parce que moi c'est ça qui m'avait un peu amené à l'organizing. J'arrivais dans le militantisme où à la fois il y a des pratiques, on s'arrache tous et toutes à essayer de faire du mieux qu'on peut, et à la fois c'est pas facile parce que on n'est pas dans une période où on gagne beaucoup, donc à côté de ça, l'éducation populaire, ça s'institutionnalise un peu, c'est pas forcément très axée sur la lutte et la transformation sociale en passant par la lutte, plus par l'émancipation. Et du coup, bah, l'envie d'être efficace, l'envie de gagner, elle existe. Et nos amis américains, américaines pensent beaucoup selon ces termes-là. Et donc, c'était en allant leur poser ces questions-là. Enfin bref, voilà, cette tension sur qu'est-ce que c'est qu'être efficace quand on veut changer le monde, c'est vraiment quelque chose de compliqué, je trouve, et potentiellement d'assez contradictoire. C'est-à-dire que quand on a le plus l'impression d'être efficace, ben en fait, c'est pas forcément là où on l'est. Enfin bon, là, je suis pas forcément très claire, mais justement, c'est nourrir ces tensions-là.
C'est vraiment un des éléments qui m'a beaucoup intéressée dans le livre. Notamment parce que moi, j'étais assez interpellée ces dernières années, enfin ces derniers mois encore plus particulièrement, sur un peu le développement d'approches, un peu de tentatives d'avoir une approche un peu presque scientifique des mobilisations, tu vois, avec par exemple l'altruisme efficace qui a vraiment le vent en poupe, tu vois, on en entend parler partout. Un peu le militantisme evidence-based, tu vois, on pourrait évaluer de manière parfaitement rationnelle nos résultats et tout. Et voilà, ça, c'est quelque chose qui m'interpelle assez. Je pense qu'il y a ses limites et c'est un peu de ça dont tu parles aussi. Je trouve que c'est vraiment intéressant là-dessus.
Ouais. Bah, c'est vrai que cette pensée états-unienne du militantisme, en fait, l'organizing en soi, ça veut dire s'organiser, donc ça a rien de neuf en soi, si ce n'est que ils ont cette pensée très stratégisée et très méthodologique sur comment s'organiser, comment négocier, comment ramener du monde, comment, enfin, et là pour le coup, le comment, eux, ils y répondent. Autant moi justement dans le bouquin, j'ai pas voulu y répondre. Et alors je propose des choses évidemment, mais enfin. J'ai pas la prétention de dire comment faire les choses. Autant là-bas, bah, il y a vraiment des fiches méthodes, des bouquins qui sortent sur comment faire. Et à la fois, c'est très énergisant parce que bah, ça permet de se mettre en mouvement et c'est assez enthousiasmant. Et à la fois, enfin, du coup, ça peut aussi être assez dépolitisant parce que les méthodes passent en premier. Et puis aussi, ça pose vraiment voilà une question. Une question de qu'est-ce qu'on transforme quand on reproduit comme ça. C'est-à-dire que pour être efficace, le principe de l'organizing, c'est qu'on veut avoir des victoires, ce qui est un très bon principe, mais du coup, des victoires dans le monde tel qu'il est, ce qui veut dire qu'on va se battre aussi en prenant en compte le monde tel qu'il est et du coup en l'acceptant d'une certaine façon. Donc, on va utiliser des méthodes marketing pour diffuser nos idées. On va utiliser des méthodes commerciales et de vente pour aller mobiliser. Voilà, tout plein de choses comme ça qui posent vraiment question parce qu'à la fois, bah, ça permet de gagner certaines choses. Et aux États-Unis, par exemple, avec la campagne Fight for 15, ils sont en train de gagner quasiment un doublement du salaire de base, du salaire minimum. Donc, c'est énorme ce qu'ils arrivent à gagner. Mais c'est vrai que la façon dont ils le gagnent pose question sur, au-delà de la réforme gagnée, qui est une réforme très importante, qu'est-ce que ça transforme dans nos mentalités et donc qu'est-ce que ça préfigure comme société future, qu'est-ce qu'on est en train de construire. Voilà, et ça pose cette tension-là.
Dans le livre aussi, tu expliques que donc cette tradition en fait, d'organizing, elle est arrivée il n'y a pas si longtemps en France, notamment avec des traductions de Saul Alinsky, qui est du coup un peu la personne, le mec un peu qui a porté ça aux États-Unis, est un regard assez critique sur sa position à lui et c'est ça, enfin, et l'organizing façon Alinsky. Ouais. Peut-être des personnes, enfin parmi les gens qui nous écoutent, ils sont tombés sur des textes ou sur des traductions récentes. Donc si tu veux nous en dire quelques mots là-dessus peut-être.
Oui, bah en effet, Alinsky, c'est un personnage qui peut être très enthousiasmant au premier regard, au premier abord, parce que justement, il donne des méthodes. Il dit comment faire, il dit par quoi commencer, il est très dans cette façon-là, et puis en fonctionnant avec des évidences, ben voilà. Et à la fois, aujourd'hui aux États-Unis, Alinsky, tout le monde l'a lu en gros, mais il y en a très peu qui se considèrent comme des disciples d'Alinsky aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il est au mieux dépassé. Et au pire, il y a plein de gens qui le considèrent comme nocif parce qu'en fait, il l'a justement tellement centré sur les victoires, ce qui est, encore une fois, c'est paradoxal, c'est une très bonne chose d'avoir des victoires, mais tellement centré sur les victoires qu'il assume très clairement que la fin en vaut les moyens. Et il se définit lui-même, il dit « je veux être le Machiavel des pauvres ». Donc, en soi, très bien, il veut gagner, et il veut qu'on se donne les moyens de gagner, sauf que pour gagner, il est prêt à faire, enfin, il est prêt vraiment à utiliser des méthodes qu'on combat par ailleurs. Et aujourd'hui, c'est pas mal remis en cause aux États-Unis, où justement, ça donne des organisations assez autoritaires, enfin, voire très autoritaires. Ça donne aussi des organisations très réformistes, quoi, qui fonctionnent uniquement par du lobbying, qui n'ont pas de problème à agresser, à faire de la corruption. Évidemment, ça ne se fait pas, mais s'il faut faire du clientélisme, on va faire du clientélisme si c'est pour gagner, par exemple.
Ouais. Tu disais aussi que dans l'approche d'Alinsky, on peut s'allier à absolument n'importe qui du moment que ça marche, quand bien même les alliés en question seraient des ennemis politiques, en fait.
Ouais, dans la pensée d'Alinsky, il le dit texto, il n'y a pas d'allié permanent, pas d'ennemi permanent. Et typiquement, quand j'étais aux États-Unis, il y avait une bataille sur, à propos sur la question de l'éducation. C'était une taxe. Il luttait pour gagner une taxe sur les millionnaires, donc en soi super. Et les résultats, les bénéfices de cette taxe devaient aller au transport public et à l'éducation. Sauf qu'aux États-Unis, depuis Obama, les écoles privées, qui s'appellent les charter schools, elles sont subventionnées comme l'éducation publique. Les syndicats de profs se battent énormément contre ces écoles privées, sauf que pour se battre pour cette taxe, les écoles privées ont dit « nous, on veut rentrer dans la coalition qui défend cette taxe, parce que si la taxe passe, on en bénéficiera, puisqu'on est subventionné au même titre que l'école publique ». Et donc là, il y a eu un gros débat, c'était terrible, dans la coalition, entre les syndicats de profs qui disaient « mais il n'y a pas moyen qu'on laisserait rentrer ces gens-là, les écoles privées, dans notre coalition, parce que c'est nos ennemis fondamentaux, quoi. On se bat contre ça, on défend l'école publique ». Et à côté de ça, il y avait les Alinskiens qui disaient « mais c'est stupide, vous êtes juste des idéalistes, de toute façon, si la taxe elle passe, ils seront subventionnés, ces écoles privées seront subventionnées, donc ça ne change rien qu'on les accepte ou pas, dans tous les cas, elles seront subventionnées. Or, nous, on a envie que la taxe, elle passe, et pour qu'elle passe, on a besoin d'être les plus nombreux et nombreuses possibles. Donc, acceptons-les. Et donc, on voit bien cette notion de ce pragmatisme, mais un pragmatisme pensé uniquement à court terme, c'est-à-dire qu'on se concentre sur les conséquences plutôt que sur les idées, mais on ne pense les conséquences qu'à court terme. C'est-à-dire que l'objectif est uniquement la victoire et uniquement gagner cette taxe, ce qui est énorme. La taxe, d'ailleurs, ils ont fini par la gagner et c'est vraiment une grande victoire. Mais pour gagner cette taxe, on est prêt à s'allier avec des ennemis quand même assez fondamentaux. Bon, finalement, c'est les syndicats de profs qui ont gagné et ils ne se sont pas alliés avec eux, mais le combat a été terrible. Sur justement quels moyens on se donne pour avoir cette victoire.
Ah ouais, c'est vraiment des gros dilemmes, je pense que ça peut nous évoquer un peu toutes et tous des questions qu'on se pose. Il y a plein de situations où le bon choix sur qui on accepte comme allié n'est pas évident, mais dans l'exemple que tu donnes, c'est assez frappant. Et donc, tu nous as présenté un petit peu les critères importants de cette tradition d'organizing aux États-Unis. Et donc là, on peut revenir un petit peu sur justement les différences qu'il y a avec l'éducation populaire telle qu'on peut la connaître en France. Et je pense qu'on va pouvoir en profiter aussi pour revenir sur ce terme, parce que le terme d'éducation populaire, finalement, ça suscite parfois quelques confusions. Récemment, par exemple, on a pu voir des quiproquos sur Twitter, Twitter étant le réseau du quiproquo par excellence, sur le terme d'éducation populaire, qui était compris comme... En gros, vous voulez éduquer le peuple qui sait rien. Ou alors, il y a des personnes qui vont... Mais moi, la première, d'ailleurs, qui ont peut-être une acceptation beaucoup trop large et dès qu'on fait un peu un truc à visée de transmission, on appelle ça l'éducation populaire. Bref, c'est pas très clair. Donc, est-ce que tu peux nous dire un petit peu, toi, comment tu définirais, en fait, l'éducation populaire ?
Ouais. En effet, c'est pas très clair et de toute façon, il n'y a pas de définition instituée, pas ma connaissance de l'éducation populaire. Donc, voilà. Maintenant, il y a une tradition d'éducation populaire et ça éclaire ce que ça peut être. Et c'est sûr que pour moi, l'éducation populaire, ce n'est certainement pas l'éducation du peuple par les élites. C'est pas l'éducation des autres, c'est pas une pédagogie, c'est pas une vulgarisation d'idées. C'est pas l'école en dehors de l'école, c'est pas dire aux autres qu'il faut qu'ils pensent. Donc là, j'ai fait définition par la négative, mais pour aller vers le positif, c'est une démarche critique qu'on mène nous-mêmes collectivement pour construire notre émancipation. C'est-à-dire que le terme d'éducation, il est assez, en effet, il est malvenu parce qu'aujourd'hui, on ne pense l'éducation que dans une démarche de transmission. Éduquer, c'est dresser. Sauf qu'en fait, l'éducation, c'est beaucoup plus que dresser. L'éducation, c'est s'émanciper. Et justement, l'éducation populaire, c'est l'émancipation. Et enfin voilà, dans l'éducation populaire, on n'est pas tant dans la formation que dans la déformation. L'enjeu, c'est de se déformer, de déconstruire le formatage dans lequel on a grandi, dans lequel toutes les institutions et toute la société nous a fait grandir et du coup déconstruire ça collectivement, et ça on a besoin des uns des autres pour déconstruire ça, pour reconstruire autre chose. Et du coup ça pose une question de posture, parce que autant en éducation, enfin la conception classique de l'éducation, on va éduquer les autres puisqu'on va les dresser, quoi. Donc on est dans l'éducation des autres et on éduque les autres. Autant l'émancipation, on ne peut pas émanciper les autres. C'est l'émancipation, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire seul. On ne peut pas s'émanciper tout seul comme ça. On a besoin des autres et on a besoin de la transformation sociale, ça reste notre responsabilité individuelle, c'est-à-dire que ce n'est pas les autres qui vont nous émanciper. C'est une trajectoire individuelle qui est permise par le collectif et par la transformation sociale. Et donc, dans l'éducation populaire, il y a vraiment ce triangle entre individuel, collectif et social qui est... on ne peut pas séparer les trois. Et du coup, ça fait qu'on est... L'éducation populaire, en fait, pour moi, c'est un processus. C'est-à-dire que c'est au travers de ce qu'on fait, c'est la façon dont on fait les choses qui est primordiale. C'est-à-dire quoi qu'on fasse, que ce soit dans les centres sociaux, on va faire des fresques dans le quartier, quand dans les MJC, on va faire une pièce de théâtre, enfin voilà, j'en sais rien. Dans les syndicats, on va faire des luttes, quoi qu'on fasse, la façon dont on fait les choses est primordiale, puisque c'est la façon de faire les choses qui détermine ce qu'on est en train de déconstruire chez nous collectivement en faisant les choses. Et du coup, ça veut dire que, c'est vraiment élaborer ensemble, faire des allers-retours entre l'action et la réflexion sans cesse. Entraîner notre esprit critique, notre capacité de discernement. Du coup, c'est inséparable de la démocratie. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de processus d'éducation populaire dans des cadres non démocratiques. Donc, ça, on voit tout de suite la différence avec l'école pensée de façon classique, quoi. Malgré le fait que ce soit pas, l'éducation populaire, c'est pas une transmission de savoir, mais c'est pas non plus un anti-intellectualisme. Au contraire, c'est quelque chose d'intellectuellement assez exigeant, puisqu'on est sans cesse à aller rechercher la complexité des choses et à réfléchir ensemble à, en fait, qu'est-ce qui est en train de se passer, et du coup à aller se nourrir probablement à des savoirs, à aller chercher des savoirs pour forger notre propre analyse. À la fois, il y a deux conceptions erronées, et du coup, c'est dommage, de l'éducation populaire. Il y a celle qui est éduquer le peuple, alors là, on est dans le paternalisme, quand il y a des forces de gauche qui veulent éduquer le peuple, en fait, pour moi, on n'est pas dans l'émancipation, on est juste dans, on veut que le peuple, il obéisse à des gens de gauche. Mais très bien, mais c'est pas ça l'émancipation, et moi, c'est pas mon projet politique. Puis, il y a une deuxième conception erronée, selon moi, de l'éducation populaire, c'est justement de réduire ça à des méthodes, à faire des petits groupes, utiliser des post-it, voilà, ce qui peut être une avancée, ce qui peut aider. Mais en tout cas, l'éducation populaire, c'est quand même beaucoup plus complexe et riche que faire des petits groupes, quoi. On est vraiment dans une pratique démocratique, ce qui n'a rien de simple. C'est très compliqué. La démocratie, ça, c'est tout sauf spontané. Et du coup, c'est là où aussi c'est complètement contradictoire sur certains points de vue, de certains points de vue avec cette pensée d'Alinsky. Puisque dans l'éducation populaire, on est forcément dans une cohérence entre les fins et les moyens. Là où Alinsky disait la fin en vaut les moyens, c'est impossible dans l'éducation populaire, puisque dans l'éducation populaire, on veut absolument préfigurer et nous entraîner nous-mêmes à vivre dans une société avec des fonctionnements autres. Et donc, c'est complètement antinomique, quoi.
Pendant que tu parlais, j'étais en train de me dire que finalement... Il y a pas mal d'éducation populaire dans Radio Pirate, en fait.
Bah oui, complètement. Enfin, dès lors que, après, voilà, on est, l'éducation populaire, c'est pas une chose, c'est un ensemble de plein de choses. Voilà, c'est là où c'est pas de la transmission de savoir, mais ça, la transmission, enfin, le fait de se nourrir à des savoirs fait partie des processus d'éducation populaire. Là, bah, dans Radio Pirate, le fait qu'il y ait, enfin, voilà, c'est un espace où il y a des idées qui se croisent, des gens qui parlent, etc. Alors, c'est pas tout le monde, machin, mais le fait de pouvoir écouter, de pouvoir, bah, il y a plein de gens qui peuvent contribuer, qui peuvent proposer des émissions, etc.
Clairement. Beaucoup de formations collectives, mutuelles et tout, quoi.
Ouais.
Ça me faisait penser à ça. Mmh. Et du coup, bah, tu dis aussi dans le livre qu'il y a pas mal d'enjeux, de questionnements autour de l'éducation populaire maintenant, quoi. Parce qu'il y a eu une forme de dépolitisation de l'éducation populaire avec des collectifs qui sont vachement institutionnalisés, ce que tu racontes, et du coup, qui n'y ressemblent plus vraiment à ce que tu viens de nous raconter, quoi.
Oui, et à la fois, enfin voilà, c'est compliqué. C'est-à-dire que l'éducation populaire, il y a plusieurs traditions. Il y a la tradition liée directement aux luttes, tradition lutte de classe. Le truc mythique, c'est les bourses du travail au début du siècle, avec Fernand Pelloutier, qui était un anarchiste, qui était secrétaire général de la Fédération des bourses du travail, qui étaient des lieux où on venait chercher du travail avant tout. Il y avait un intérêt très concret, mais du coup on croisait les gens du coin, et voilà, et il y avait des cours pour apprendre à lire, il y avait on s'entraidait, etc. Et à la fois on était là entre travailleurs et travailleuses, ça déclenchait aussi des luttes. Donc, il y avait tout un processus possible d'émancipation dans ces cadres-là. Et aujourd'hui, les bourses du travail en 1902, si je ne me trompe pas, se sont liées avec le syndicalisme pour donner la CGT, qui explique aujourd'hui la double structuration syndicale entre la structuration par branche, par industrie, etc., et la structuration locale via les unions locales, qui, elles, viennent... les unions locales, c'est la suite des bourses du travail à l'époque. Et ça peut vraiment être des lieux d'éducation populaire. Mais aujourd'hui, c'est plus pensé comme ça dans le syndicalisme. Et pour moi, c'est un enjeu. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Hein, c'est pas parce qu'on ne le pense pas qu'on ne le fait pas. Qu'on ne l'appelle pas comme ça qu'on ne le fait pas. Mais pour moi, ce serait un enjeu que ce soit réappelé comme ça, parce que ça serait l'occasion aussi de l'évaluer, de se dire, est-ce qu'on y arrive bien, comment on pourrait le faire plus, etc. Donc ça, c'est une des traditions, la tradition lutte de classe. Et à côté de ça, il y a la tradition qui vient des Lumières, de la Révolution française, au moment où le droit de vote est donné à tous les hommes, alors, évidemment pas aux femmes, mais en tout cas à tous les hommes. Et du coup, la bourgeoisie éclairée se dit, il va falloir éduquer le peuple pour qu'il puisse voter. Et donc là, il y a cette tradition-là, du coup, qui là est plus clairement dans une optique éduquer le peuple. Mais qui a été remis en cause un petit peu à la fin de la Seconde Guerre mondiale, quand il y a eu le constat qu'en fait l'éducation ça suffit pas pour combattre le fascisme et pour faire préférer la démocratie au fascisme. Et du coup, il y a eu un renouveau un peu de l'éducation, enfin un développement de l'éducation populaire comme pratique d'émancipation démocratique, etc. Donc ça s'est développé, il y a eu une revendication d'être reconnu, mais la reconnaissance par l'État a poussé l'éducation populaire vers la sphère du loisir. Typiquement, l'éducation populaire aujourd'hui s'est rattachée au ministère jeunesse et sport. Donc voilà, alors que ça a été séparé, que ce soit de la culture, de la recherche, de l'éducation. Et du coup, de plus en plus, ça pousse les associations à se retrouver dans le secteur du loisir. Alors, au travers du loisir, on peut créer, travailler de l'émancipation, etc. Mais pour plein de raisons, ça s'institutionnalise et ça peut virer à faire seulement, ce qui est déjà énorme, seulement de l'animation, en oubliant comme ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que l'éducation populaire, c'est un processus au travers du reste. Et quoi qu'on fasse, que ce soit les colonies de vacances, que ce soit, quoi qu'on fasse, c'est des occasions de travailler notre émancipation et d'avoir des pratiques démocratiques et de les pratiquer régulièrement. Et quand on oublie ça, du coup, on devient juste un centre d'animation, ce qui est déjà sympa, hein, c'est sympa de jouer au volet. Mais on oublie l'aspect émancipation. Et du coup, oui, c'est beaucoup plus dépolitisé.
Ouais, mais c'est aussi plus facile du coup d'avoir des subventions, etc. Parce que c'est pas trop peur au pouvoir quoi aussi. Quoi. Bon, ça va, c'est une nation qui fait faire du sport. Et en plus, qui occupe les jeunes, donc ça arrange plutôt.
Et là, on tombe dans l'encadrement social, c'est-à-dire que, c'est ce que je disais un peu au début, les métiers, que ce soit les métiers de l'animation, du travail social, mais aussi à l'école, etc., c'est des métiers qui font de l'encadrement social, très clairement, mais c'est aussi des métiers qui ont des marges de manœuvre pour développer des pratiques émancipatrices. Et c'est pour ça que moi, je suis pas du tout du genre à dire il faut pas aller dans ces métiers-là, c'est que des vendus, c'est institutionnel, etc. Oui, c'est institutionnel et oui, c'est difficile et c'est difficile de bosser dans ces endroits-là parce que justement, on se prend plein de stops. Mais on a vraiment besoin de militants et de militantes dans ces endroits-là, justement pour pousser ces portes, pour aller plus loin et pour exploiter les brèches et essayer d'avoir des pratiques les plus libératrices possibles.
Super intéressant. Alors, si ça te va, Adeline, ce que je propose, c'est qu'on va faire une petite pause en musique et ensuite, quand on va revenir, on fera un peu une petite synthèse de ce qu'on vient de voir, de ce que tu viens de nous raconter sur, en gros, les limites et les avantages des deux traditions dont tu viens de parler.
OK.
Et on discutera un petit peu aussi des pistes que tu identifies dans le livre pour les groupes militants les conseils, en tout cas, les outils, les démarches dont tu as pu parler dedans. Et puis, on pourra comme ça un peu discuter de, je sais pas, comment mettre un peu plus d'éducation populaire ou d'organizing dans nos collectifs, si c'est bon pour toi.
OK, ouais, très bien.
Super. Alors, petite pause musicale.
Something I said, some weary
Alors, vous êtes toujours avec nous. J'espère que vous avez bien apprécié le petit intermède musical. Alors, sachez que moi, j'étais pas très compétente pour les musiques, mais alors, on a des super équipes qui nous ont conseillé sur les musiques. Donc, on espère que vous avez apprécié de votre côté. Alors, on a beaucoup parlé déjà pendant la première partie. J'espère que ce n'était pas trop dense. Mais en tout cas, on va pouvoir faire un petit bilan de ce qu'Adeline nous a expliqué dans la première partie. Donc Adeline, finalement, si on devait synthétiser un petit peu pour les personnes qui nous écoutent ou ont pris en cours de route, donc dans les grandes lignes, c'est quoi finalement les différences principales entre éducation populaire et organizing et puis les avantages et les inconvénients des deux?
Du coup, la principale différence, je pense, dans la façon de penser les choses de l'éducation populaire et de l'organizing, c'est que l'éducation populaire est vraiment axée sur l'émancipation d'abord, alors que l'organizing, c'est le pouvoir d'abord. Dans l'éducation populaire, on se dit qu'il faut qu'on s'émancipe, qu'on se déconstruise, qu'on arrive à fonctionner autrement, et du coup, ça changera le monde. Donc, il y a un petit côté idéaliste, quand même. Mais ça fait qu'on a la nécessité d'avoir une cohérence entre les fins et les moyens, ce que je disais tout à l'heure. Alors que dans l'organizing, on se dit, en fait, le problème, c'est que les gens n'ont pas de pouvoir et qu'il faut récupérer du pouvoir, il faut développer le pouvoir. Alors, c'est ce truc un peu bizarre de dire développer le pouvoir, comme si c'était un truc qu'on pouvait, qu'on pouvait se partager, enfin voilà, un espèce de gâteau. Alors, bon. Et une fois que les gens auront le pouvoir, et le monde changera. Donc là, pour le coup, il y a un espèce de truc qui pense que quand quand les exploités, les opprimés auront le pouvoir, tout ira bien. Ce qui n'est pas vrai non plus, puisque d'autant plus que comme dans l'organizing, on considère donc que la fin en vaut les moyens, comme je le disais, ça veut dire que pour gagner du pouvoir, on est prêt à utiliser les mêmes méthodes que le camp d'en face et donc quelque part à les valider aussi. Donc ça pose vraiment question, je trouve, sur la stratégie de transformation sociale, parce que voilà, en organizing, on considère vraiment que tout est dans le rapport de force. Et à la fois c'est vrai et à la fois ça valide la légitimité, enfin le fait que le rapport de force, enfin la force et le pouvoir est la seule légitimité. Dans la société, c'est-à-dire que c'est le plus fort qui gagne. Voilà, ça valide ça. Alors, c'est le cas, effectivement, mais je pense qu'il y a aussi une autre façon, et enfin, je pense qu'on pense tous qu'il y a aussi une autre... Enfin, que l'enjeu est aussi de transformer ça. C'est-à-dire que l'enjeu est de changer le fait que c'est le plus fort qui gagne. Et du coup, Et dans l'organizing, comme tout est dans le rapport de force, on considère donc que notre force est notre nombre. En face, ils ont l'argent, nous on a le nombre. Et donc, comme notre force est notre nombre, notre priorité, ça doit être d'être le plus nombreux et nombreuses possible. Donc, ça veut dire que notre activité en tant que militant-militante, ça va être de mobiliser, d'organiser, de accompagner ce qu'ils appellent le développement des membres, c'est-à-dire c'est tout un truc de compagnonnage, de formation, etc., pour que les gens qui rejoignent les organisations soient en capacité de fonctionner collectivement, se politisent, soient en capacité d'animer les collectifs, etc. Et puis, c'est aussi l'idée d'aller chercher l'énergie dans les petites victoires, des choses très... ça paraît évident, mais ça pose plein de questions, de se dire que perdre, ça nous fait perdre, ça c'est pas énergisant, donc il faut qu'on gagne. Donc en fait, on va aller chercher ce qu'on peut gagner. Mais du coup, ça veut dire aussi qu'on se limite à un réformisme, pour le coup, si on n'est que dans cette pensée-là, très peu ambitieux, parce que les choses qu'on peut gagner, les choses qu'on gagne facilement, c'est généralement des choses pas très, qui transforment pas grand-chose. Ça veut pas dire qu'il faut pas les gagner par ailleurs. Hein. Mais du coup... ça se concentre.
Restreindre volontairement pour pouvoir se dire au moins ça, on va le gagner. Quoi.
C'est ça, ouais, exactement.
Mm-mm. Ouais, mais en fait, toi, les tendances dont tu parles là, sans aller jusqu'à la version Walensky, qui est un peu la version hardcore de cette approche, on retrouve des formes de logique comme ça dans du militantisme révolutionnaire plus classique, non, dans un certain, je sais pas ce que t'en penses, dans un certain sens, de se dire en fait ce qui compte c'est d'avoir le pouvoir, puis les questions éthiques, morales, etc. Finalement, le minimum quand même, mais finalement le reste on verra après avoir eu le pouvoir, quoi. Tu vois, c'est un peu ce que je me dis. Moi j'ai des discours assez proches tenus par des personnes qui sont pourtant pas dans ce type de tradition là.
Oui, c'est là où, en effet, enfin, l'organizing, ça se passe aux États-Unis, mais les questions se posent exactement pareil chez nous. Et d'ailleurs, on ne peut pas généraliser ce que c'est que l'organizing. À la base, l'organizing, c'est du syndicalisme et c'est aussi divers que le syndicalisme en France, quoi. C'est-à-dire qu'il y a de l'organizing CFDT, il y a de l'organizing beaucoup plus radical. Donc, et avec, voilà, des conceptions assez diverses. Mais du coup, cette diversité, elle existe avec, et ça donne des formes d'organizing différentes. Alors, il y a des formes très autoritaires avec des structures très hiérarchisées, pyramidales, avec, je vous le donne en mille, des hommes blancs de plus de 50 ans à la tête. Et puis, voilà, et très maltraitantes envers les membres, envers les salariés. Parce que donc, dans l'organizing, il y a des salariés qu'on appelle des organizers. Donc ça, c'est une forme qui existe très clairement là-bas. La forme qui arrive en France, elle est un peu différente puisqu'elle est plus centrée, elle a plus une pensée travail social avec l'idée de qui est liée au développement du pouvoir d'agir, qui est une notion de plus en plus présente depuis pas mal d'années dans le travail social, qui se dit qu'il faut accompagner les personnes à pouvoir faire par elles-mêmes. Et justement, on va être pas dans le faire pour, mais dans le faire avec. Et via l'organizing, se dire, en fait, on va utiliser la lutte comme un moyen aussi de développement du pouvoir d'agir et accompagner les personnes pour que, en luttant dans leur quartier pour obtenir l'ouverture d'une salle pour les jeunes, par exemple, ils obtiennent une victoire et que ça développe leur confiance en eux collective et développer quelque chose comme ça. Et à côté de ça, aux États-Unis, justement en réaction à un organizing autoritaire, il y a un organizing un peu anarchisant qui se développe et qui est assez intéressant et où ils se questionnent vraiment sur comment ne pas reproduire le monde, comment ne pas lutter en reproduisant le monde tel qu'il fonctionne actuellement et comment essayer de préfigurer d'autres modes de fonctionnement. Et là, c'est vraiment des formes assez intéressantes qui se développent là-bas.
Ouais, c'est peut-être des occasions, tu en parles aussi un peu dans le livre, mais finalement de s'inspirer des deux approches et peut-être là d'arriver sur des choses très intéressantes pour nous en tant que collectif.
Ouais, c'est-à-dire que moi je trouve que l'organizing ça pose des bonnes questions. C'est comment on sort de l'entre-soi, comment on essaie de gagner, plein de questions comme ça. Après, ça n'apporte pas forcément les bonnes réponses, mais au moins les réponses qu'ils apportent, ça permet de nous positionner par rapport à ça. Ça permet d'avoir faire un pas de côté pour questionner nos pratiques, ce qui, je pense, fait jamais de mal. Mais après, je pense qu'il faut pas, c'est pas une bonne idée d'importer leurs pratiques en France. On a les nôtres, on a nos traditions, traditions de lutte, traditions d'éducation populaire, qu'elles soient appelées comme ça ou pas. Existe encore énormément. Enfin voilà, il y a plein de syndicats qui font des formations sur l'enquête conscientisante. Ils appellent pas ça d'éducation populaire, mais c'est une pratique d'éducation populaire de comment est-ce que collectivement on essaie de comprendre nos situations de travail en l'occurrence pour chercher à les transformer. Toutes ces traditions là, elles existent et je pense qu'il faut continuer à aller évidemment piocher là-dedans quoi.
Et ta démarche dans le livre, du coup, de porter un regard à la fois critique et en même temps valorisant sur ces deux approches-là, mais quand même un regard critique sur les deux, ça a été reçu comment de la part des militants ou des travailleurs d'éducation populaire
Ouais. C'est intéressant parce que beaucoup les professionnels qui sont dans le travail social, dans l'animation, dans l'éducation populaire, j'ai énormément de très bons retours avec des personnes qui me disent mais c'est vachement bien, c'est des questions que je me pose, c'est exactement ce que je rencontre au quotidien, etc. Et c'est un peu normal parce que moi je fais partie de ce milieu-là, donc et moi encore une fois les questions que je pose dans le bouquin, je les ai pas inventées toutes seules, donc en fait on est vraiment dans ces questions qui se posent pour des personnes qui essayent pour le coup dont le métier est de sortir de l'entre-soi, d'être avec des gens très divers et d'essayer de créer du collectif, être à fond dans les questions sociales. Et par contre, dans le monde militant, ça a été un peu rude, ce qui est un peu étonnant parce que moi, dans le bouquin, tout ce que j'ai appris, je l'ai appris de ces pratiques, enfin des pratiques des militants et militantes dont j'ai énormément appris. Mais je pense que le fait de questionner les pratiques, c'est compliqué, quoi. Et notamment le faire dans un livre et c'est qui cette nana qui vient nous expliquer comment s'organiser, quoi. Alors que évidemment, enfin, quand on regarde le bouquin, c'est pas du tout ce que je fais. Mais c'est il y a quelque chose qui est un peu pris comme ça. Alors que c'est vraiment pas la démarche, puisque au contraire, moi j'étale dans le bouquin les questions et les tensions. Et oui, c'est vrai que et ça se justifie. Enfin voilà, dans le militantisme, il y a des gens qui se crèvent à la tâche, qui luttent, etc. Il y a toute une tradition et qui se justifie parfaitement, qui disent en fait tes questions elles sont pas valables si on ne voit pas sur le terrain. Sauf que évidemment que moi je suis pas sur tous les terrains, donc voilà. Et là c'est un bouquin, donc c'est compliqué de proposer j'ai trouvé ça compliqué et j'avoue ça a pas toujours été bien reçu de proposer un recul sur les pratiques, un temps de recul sur les pratiques, de proposer d'y réfléchir ensemble, forcément le bouquin il est en dehors, quoi. Moi je suis en dedans dans certains endroits, mais le bouquin il est en dehors. Voilà.
Ouais, moi je trouve que tu prends vraiment soin d'être très précise là-dessus dans le livre, et puis on sent que c'est vraiment plus une synthèse une synthèse de plein de ressources en fait, qui finalement sont issues des pratiques de plein de mouvements et de plein de collectifs différents, et absolument pas un truc qui tomberait du haut pour expliquer au collectif comment faire. C'est l'inverse en fait, hein. Ouais. C'est pour les personnes qui voudraient s'intéresser au livre, c'est vraiment l'inverse, quoi. C'est vraiment partir de ce qui a pu être fait, des leçons qu'on a pu en tirer et comment on peut s'en inspirer dans nos collectifs. Et moi, personnellement, je trouve que il me manquait un petit peu un bouquin comme ça. Moi, j'aime bien les trucs un peu concrets, mais qui non plus, donnent pas l'impression, c'est en train de nous dire, ok, j'ai trouvé la solution pour réinventer toute la gauche. Par exemple, moi, j'aime bien la collection des petits manuels aux éditions du commun. Là, je me suis dit chouette, un autre manuel. Donc, j'ai bien aimé ce côté-là. Il me reste pas énormément de temps, mais donc je voulais te demander, est-ce que toi, une des conclusions que tu tires un peu de tout ton travail, c'est est-ce qu'on manque pas justement dans nos collectifs politiques, en particulier dans les organisations politiques au sens large, d'investissement justement des outils de l'éducation populaire, quoi.
Je pense que aller fouiller là-dedans, ça peut forcément apporter des choses. Après, encore une fois, je pense qu'il y a plein de choses qui se font et qui relèvent de démarches d'éducation populaire sans forcément être appelées comme ça. Après, voilà, encore une fois, je pense que le fait de le penser comme tel, ce serait vraiment intéressant parce que ça veut dire que, enfin, le penser, ça veut dire aussi l'évaluer. Et l'évaluer pour nous, c'est-à-dire, encore une fois, questionner notre capacité collective à construire de l'émancipation au travers de ce qu'on fait. Comment est-ce que, quand on est un syndicat dans une boîte, comment est-ce que on lutte, on crée du collectif, on crée des discussions politiques, on fonctionne le plus démocratiquement possible, etc. C'est des questions qui se posent, mais l'éducation populaire propose des outils et des démarches et tout un cadre de pensée qui accompagne ces questions-là. Et c'est le but de l'éducation populaire d'accompagner ces questions-là. Et puis, fondamentalement, c'est des outils qui... Enfin, c'est des démarches, c'est des questionnements qui permettent de repenser fondamentalement la conception au pouvoir, la conception du pouvoir, le rapport au pouvoir, puisque, le principe de l'éducation populaire, c'est de se réapproprier les choses, se réapproprier les questions qui nous concernent, se réapproprier les savoirs dont on a besoin, se réapproprier les projets qu'on a envie, qu'on a pour la société. Ça va avec ne pas séparer les personnes qui font, les personnes qui décident, les personnes qui pensent. Ça invite vraiment à aller au fond des démarches de transformation sociale, puisque il s'agit pas seulement, on va se battre pour obtenir des victoires, on va se battre sur le champ du pouvoir, mais on va surtout essayer de transformer notre rapport au pouvoir. Et pour moi, ça c'est fondamental, parce que ça fait que ça crée, je pense, une résistance totale à l'autoritarisme. Et dans la période actuelle, qui est quand même complètement flippante en termes de montée des discours et des pratiques autoritaire et l'acceptation quand même assez large de ça, quoi. Je pense qu'on a vraiment besoin d'être hyper au carré dans nos pratiques sur le fait de ne pas reproduire ces schémas-là du pouvoir. Or, encore une fois, la pensée de l'efficacité voudrait que pour résister à la force, on essaie d'être encore plus fort, parce que c'est nécessaire, il faut résister. Et à la fois, là, l'urgence, dans tout ce qui est flippant en ce moment, c'est aussi de sortir de cette logique-là. Et je veux dire, c'est un piège dans lequel, partiellement, on est obligé de tomber parce qu'il faut qu'on se défende. Et à la fois, c'est un piège que de reproduire, d'essayer d'être encore plus con que les autres en étant plus fort qu'eux, quoi. Mmh. C'est-à-dire qu'on a besoin d'inventer d'autres façons. Et c'est hyper facile à dire et très, très, très difficile à faire. Et je ne dis pas impossible parce qu'il faut que ce soit possible, on n'a pas le choix. Mais en tout cas, il sert à prendre très, très au sérieux. Et justement, les démarches d'éducation populaire, elles nous forcent à prendre ça au sérieux. Et c'est là où je trouve que vraiment, c'est intéressant. Et voilà, moi, par exemple, il y a des mouvements en ce moment qui sont très sur des actions coup de poing et qui vont envoyer des textos à une armée de gens qui vont devoir aller à l'endroit où on leur dit, sans savoir pourquoi on va là, qui a décidé qu'on allait là, qu'est-ce qui va se passer, quelle est la cible et tout. Et en fait, qui montent des armées de gens qui obéissent à un état-major, on ne sait pas trop où. Et en fait, à la fois, ils mènent des combats. Il y a un documentaire là qui est sorti, qui passe sur Arte en ce moment, qui s'appelle Désobéissant, et on voit ça. À la fois, c'est des combats qui sont parfaitement valables et voire émancipateurs. Et à la fois, la façon dont c'est fait, moi, ça me fait flipper. C'est-à-dire qu'une armée de gens qui reçoivent des textos et qui vont, ils savent pas où pour faire, ils savent pas quoi, décider par ils savent pas qui, et à aucun moment c'est discuté, à aucun moment il y a de collectif où où les gens ont la parole pour élaborer collectivement, dire ce qui s'est bien passé, comment on voudrait faire la prochaine fois, etc. Ils sont juste là pour faire le blocage à l'endroit où on leur a dit. Et moi, ça me fait complètement flipper. Enfin, je trouve le combat est valable, mais c'est flippant sur la méthode.
Moi, je suis super d'accord avec toi et je pense que ça marche bien pour plein de raisons, mais notamment parce qu'il y a un côté aussi très rassurant, je pense, de se dire, en fait, je ne prends pas de responsabilité en faisant ça, mais je pourrais dire que je suis engagée quand même, et c'est tout à fait compréhensible, surtout pour des personnes qui se sont pas, enfin, qui militent pas encore, etc., de se dire, mon premier pas, ce sera de faire ça, et puis au moins, je ne risque pas de faire d'erreur, puisque ce n'est pas moi qui décide. Sauf que comme tu disais, c'est que là, c'est complètement le contraire d'un processus d'éducation populaire, où on élabore collectivement, et puis peut-être qu'on fera des trucs pas de manière optimale, et peut-être qu'on s'améliorera, mais du coup, si... Enfin, ouais, c'est un peu... C'est complètement différent de la démarche que tu nous expliquais au début, en fait. Ouais.
Et en fait, ça pourrait être compatible avec des démarches d'éducation populaire si ce premier rendez-vous où on vient, parce que on n'est pas tout de suite hyper engagé, tout de suite membre d'un collectif, tout de suite envie de décider, etc. Mais si, du coup, il y avait une invitation après à se retrouver pour élaborer ensemble, etc. Ce qui, moi, dans ce que je vois, je ne vois pas que ça existe dans ces pratiques-là. Et du coup, c'est là qu'est le problème. Parce que en soi, être capable de se coordonner pour faire des actions coup de poing énormes, c'est plutôt chouette et on en a besoin parce que on a voilà. Mais par contre, il y a un moment, il faut avoir des capacités parce qu'en fait, c'est juste une question démocratique. Et si nous, dans nos mouvements de transformation sociale, ça fonctionne pas de façon démocratique, ça pose un petit problème quand même. Voilà.
Ça pousse la division du travail de manière très aiguë. Parce que souvent, dans ces trucs-là, tu as quand même des gens qui ont élaboré ensemble, mais genre, c'est 15 personnes membres actifs de l'asso qui ont débattu, et puis ensuite, ils se sont dit, on fait ça, et puis...
C'est un état-major, et dans le documentaire là dont je parlais, ils se qualifient eux-mêmes d'état-major. C'est quand même merveilleux.
Ah oui, au moins, tu me diras, il y a un côté assez clair là-dedans. C'est clair. Et dans le livre, tu parles plusieurs fois donc, de la notion de préfiguration, ce qui, moi, m'a intéressée pour des raisons, entre guillemets, très égoïstes, c'est que je suis en train de lire là-dessus aussi. Et que, d'ailleurs, on avait parlé quelques fois un peu sur les réseaux sociaux. Et j'aimerais bien revenir un peu là-dessus, parce que ça recoupe un petit peu ce que tu expliques sur les différents rapports possibles au pouvoir en place. Parce que quand on parle de préfigurer, Souvent, tu vois, l'image qui nous vient en tête, c'est un peu la construction d'utopie en dehors. Genre, tu sais, on crée un peu la société parfaite. Et ça peut vite être interprété comme plutôt une sorte de fuite. Tu vois, la fameuse opposition entre voilà, l'utopie, mode de vie, etc. Et le mouvement politique, stratégique qui cherche à construire du pouvoir. Et cette notion-là, il me semblait qu'il y avait un côté intéressant dedans, c'est que ça dépasse un peu cette espèce d'opposition binaire entre soit construire un truc à part, soit être que dans l'aspect pouvoir. Mmh. Qu'est-ce que t'en penses ?
Bah, oui, en effet. C'est-à-dire que, en effet, je termine le bouquin sur différentes stratégies d'action. Et y a cette stratégie d'agir en dehors du pouvoir. Et moi, ce que j'en dis, c'est que aucune stratégie n'est parfaite. Enfin, si quelqu'un là qui nous tienne au courant, parce que voilà. Et puis personne n'est parfait aussi. Et ça, c'est con à dire, mais ça veut dire être un peu humble aussi sur nos façons de lutter, humble et exigeant à la fois. Hein, c'est-à-dire être le plus exigeante possible, et puis à la fois savoir que rien de ce qu'on fait n'est parfait. Et du coup, dans ces utopies en dehors, comme tu dis, pour moi, c'est extrêmement important parce que ça développe une valeur d'exemplarité, ça donne de l'énergie, c'est des expérimentations. Moi, j'aime pas parler d'alternatives parce qu'en fait, dans le monde tel qu'il est, on peut pas faire d'alternatives réelles, quoi. On est coincé par le capitalisme dans lequel on s'inscrit, mais on peut expérimenter des choses, voilà, à la marge. Maintenant, c'est sûr que ça, c'est pas, pour moi, il y aura pas d'effet boule de neige. C'est pas ces expérimentations et c'est pas la permaculture et les élevages de brebis qui vont renverser le capitalisme. Il n'empêche qu'on en a besoin justement pour expérimenter des choses. Et puis bah voilà, parce que le jour où les AMAP seront dangereuses pour Auchan, bah en fait Auchan fera voter une loi pour interdire la vente directe. Je m'inquiète pas pour ça, quoi. Pour une raison ou pour une autre, ils feront interdire. Donc voilà, on a besoin à côté d'autres stratégies, la stratégie de vraiment de créer du rapport de force pour ouvrir des négociations et gagner et limiter les reculs dans la période où on est, voire gagner des améliorations, aussi de la lutte très radicale, vraiment avec là pour le coup, on n'est pas dans la revendication gagnable, ça c'est encore un truc de la pensée de l'organizing que pour dans l'organizing, on fonctionne par campagne en considérant qu'une campagne, c'est se battre pour une revendication gagnable, donc en direction d'une cible qui va pouvoir valider, sur laquelle on va exercer un rapport de force pour la faire accepter la revendication. Et donc, à la fois, ce champ de la revendication et du rapport de force pour négocier, et de l'autre côté, le fait de se battre pour des revendications non gagnables et vraiment pour de la transformation sociale plus large. Et puis, à côté de ça aussi, au jour le jour, et peut-être sans doute dans nos boulots, essayer de d'exploiter des brèches, de faire ce qu'on peut là où on est. Et voilà, et il y a plein de métiers où la façon de les exercer n'a rien à voir selon que c'est des personnes militantes ou non qui les exercent. Encore une fois, le travail social, l'éducation, etc. Selon qu'on a un ou une militante dans ces postes-là ou pas, ça donne des résultats totalement opposés.
On peut penser aux enseignants aussi, effectivement, ça s'applique. Ça s'applique très bien.
Ouais.
Il me semble qu'une des raisons pour lesquelles ça peut tenter ce type d'expérimentation collective, c'est aussi que souvent, ça donne des lieux, des espaces un peu tangibles dans lesquels on fait quelque chose, on teste des modes de fonctionnement, etc., qui sont identifiables matériellement et qui nous font du bien aussi. Ouais. Et justement, donc... Il y a eu une petite discussion apparemment dans un des chats il y a quelques minutes sur les bourses du travail et un peu une nostalgie de ces bourses du travail et des personnes qui demandaient seulement à moitié en rigolant si les centres sociaux autogérés étaient un peu les nouvelles bourses du travail, ils pouvaient faire office de ça. Et je trouve la question des lieux là-dessus, elle est assez importante. Est-ce que tu as observé des réflexions de partager là-dessus?
Oui. Oui, et d'ailleurs, ce que tu disais en début d'émission, que Radio Pirate, c'est un lieu aussi. C'est-à-dire qu'il y a des lieux physiques, mais il y a aussi des lieux juste collectifs. Et pour moi, c'est vraiment le truc de on ne se libère pas seul, et que l'éducation populaire, c'est là où, en fait, c'est pas l'éducation populaire des autres, c'est la nôtre. Et je pense que dans un centre social autogéré, sur Radio Pirate, dans un lieu agricole collectif, etc., c'est c'est en faisant ce qu'on fait qu'on se libère collectivement par nos façons de faire, etc. Donc, tous ces lieux-là, pour moi, c'est des lieux d'éducation populaire dans le sens où, et d'auto-éducation populaire, parce que c'est bien de ça dont on parle, dans le sens où on se frotte à du réel, on est dans l'action et on est obligé de réfléchir à ce qu'on est en train de faire, à qu'est-ce que ça produit, quels sont les mécanismes qui se mettent en place entre nous, qu'est-ce qui nous empêche à l'extérieur d'avancer, du coup, contre quoi on va lutter, avec qui on va lutter, etc. Enfin, c'est-à-dire que chaque action, on est sans cesse dans l'éducation populaire dans le double agenda, c'est-à-dire que chaque action a un objectif en soi. Voilà, quand on fait Radio Pirate, c'est de faire des émissions radio. Quand on est dans un centre social, c'est peut-être d'être un lieu hospitalier pour les gens du quartier. Quand on fait de la permaculture, c'est d'avoir des carottes qui poussent. Voilà. Mais via la façon dont on le fait, on a ce double agenda, c'est-à-dire que le processus est un objectif en soi aussi. La façon dont on le fait change est primordiale aussi en tant qu'objectif.
Cette question du double agenda. C'est un truc qui m'avait intéressé aussi. C'est à la fois, voilà, on a, comme tu dis, un objectif précis et donc il y a un aspect donc de stratégique, quoi. On a un but et puis on veut l'atteindre et du coup on met des choses en place. Et d'un autre côté, ce qui se passe pendant qu'on fait ça est aussi important finalement que.
Ouais.
Et là, c'est une dynamique permanente. C'est vraiment ça, en fait. Ouais, les processus de préfiguration, en tout cas, ce qu'on voudrait que ce soit et la boussole qu'on se donne là-dessus, quoi.
Ouais. Et la cohérence entre les fins et les moyens qui, du coup, devient primordiale.
Mm-hmm. Ouais, ce qui est jamais évident parce que, il faut déjà être un peu au clair sur les moyens, déjà, pour ça, et sur les fins. ce qui n'est pas évident, puis tout. Bah, j'imagine que tout. Voilà, tous les moyens ne correspondent pas à toutes les fins. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais en tout cas, il y a un minimum de cohérence entre ce qu'on recherche et puis ce qu'on essaie de mettre en place en termes de d'éducation populaire, c'est-à-dire d'éducation mutuelle aussi.
Puis de pratiques démocratiques, de lutte contre les oppressions, puisque la démocratie n'est pas possible dans un contexte où il y a des oppressions. Donc, ça veut dire que on ne peut pas, si on prétend lutter pour une société émancipatrice et démocratique, accepter en interne des pratiques oppressives. On peut pas penser le pouvoir de façon délégataire, centralisée. Et on est obligé de se poser ces questions-là, même si évidemment, encore une fois, rien n'est parfait. Et quand on est dans le réel, on est bien obligé il y a toujours des compromis à faire, mais justement, c'est au moment où il va falloir se poser la question de ces compromis si on n'est pas capable dans nos projets aujourd'hui de réussir à fonctionner comme on voudrait que la société de demain fonctionne, c'est quand même mal barré pour la société de demain. Donc c'est un peu l'idée, quoi. C'est dans quoi qu'on fasse, dans tout ce qu'on fait, se frotter aux difficultés encore une fois, la démocratie, c'est pas une théorie, c'est une pratique. Et il n'y a qu'en essayant de la pratiquer qu'on devient capable de la pratiquer. Et puis aussi qu'on devient totalement intolérant à l'autoritarisme, ce qui est un objectif pour moi. C'est-à-dire que je pense qu'on a tous... Enfin voilà, la façon dont on a été éduqués nous a formatés à accepter le pouvoir qui s'impose, à accepter la délégation, la séparation du travail entre les sachants, les machins, enfin voilà. Et ça, on est obligé de le déconstruire aussi dans nos corps, c'est-à-dire que c'est vraiment profondément ancré en nous. Et c'est en le pratiquant qu'on va se rendre compte finalement de choses qu'on ne voyait pas avant, et c'est ça qu'on appelle l'émancipation, c'est commencer à voir des choses qui nous paraissaient évidentes avant et qui finalement ne nous paraissent plus évidentes. On commence à voir et qu'on est capable d'identifier le totalitarisme, les dynamiques autoritaires, et qu'on est capable de fonctionner démocratiquement finalement.
Ça fait écho ce que tu dis. Moi, je suis souvent confrontée dans mes discussions, tu vois, que ce soit vraiment juste au quotidien ou même sur Instagram ou autre, à des personnes qui n'osent pas entrer en contact avec des collectifs, qui n'osent pas forcément même envoyer un message à une association Et justement, parce que, et c'est complètement normal, elles ont intégré cette division des tâches et elles se disent, mais en fait, j'en sais pas assez, j'ai pas déconstruit assez de choses, je suis pas assez compétente, etc., pour apporter quelque chose au groupe aussi. Et du coup, je voudrais bien m'engager, mais peut-être je le ferai plus tard quand j'aurai appris assez et tout. Et sauf qu'en fait, on n'a jamais fini d'apprendre. Et pour moi, c'est un gros enjeu de savoir quel message on transmet dans nos collectifs pour éviter ça, en fait. Je trouve ça ultra frustrant, ultra triste à plein de points de vue, de savoir qu'il y a des personnes qui ne nous contactent pas, tu vois, qui se disent « Ah, moi, j'aime bien tel collectif, mais bon, voilà. » Non pas parce qu'elles ont un problème avec le collectif lui-même, mais parce qu'elles se disent « Ouais, j'en sais pas assez, etc. » Donc, j'ai pas de solution à ça tout de suite, mais j'ai l'impression que peut-être si nos façons de faire, je sais pas, les types d'actions, les types de lieux, les types de pratiques qu'on investissait, laisser un peu plus de place au processus dont tu parles, tu as de construction, d'expérimentation, peut-être que ce serait un peu moins le cas, quoi. Voilà, je sais pas ce que tu en penses.
Bah oui, et c'est vrai que j'aime bien dire que l'éducation populaire, c'est l'outil des illégitimes. Et c'est pour ça que décidément, quand c'est des sachants qui, par ailleurs, ont plein de choses à nous apporter, qui disent faire de l'éducation populaire, moi, ça me dérange parce que justement, quand on a la légitimité, pour moi, on n'est pas dans la même situation. Et l'éducation populaire, c'est un processus d'émancipation pour les illégitimes, pour moi. Et c'est là où... voilà, dans le bouquin, je repars de qui je suis, en fait. Et bon, moi, il se trouve que j'ai été éduquée femme et que du coup, j'ai un sentiment d'illégitimité voilà, qui est construit par mon éducation. Et je sais que dans l'organisation, je suis à l'UCL et j'étais à l'AL à l'époque, il y a eu un raté au moment de mon arrivée, c'est-à-dire que personne ne m'a accueillie, ce qui veut dire que personne ne m'a demandé d'où je venais, pourquoi je venais, etc. Et heureusement, parce que moi, si le premier contact que j'avais eu, c'était quelqu'un qui me demandait, au fait, t'es qui, c'est quoi ton parcours, et t'as envie de quoi, etc. Moi, c'est horrible.
Super intéressant. Voilà.
Et en fait, ouais, je suis très contente qu'on m'ait pas remarqué. Je me suis assise dans un coin, je suis restée, puis petit à petit, puis j'ai commencé à prendre la parole au bout d'un certain temps assez long. Enfin voilà. Et en fait, je pense que chacun et chacune a son propre parcours et son propre rythme. Et justement, je pense que c'est aussi un principe d'éducation populaire, c'est se décentrer de ce qu'on pense qui est bon, ce qui est bon pour les autres. Et justement, c'est un truc très lié au processus d'émancipation et à la posture d'accompagnement à l'émancipation. C'est vraiment se décentrer de ce qu'on pense être bon pour les autres. Et c'est tout le principe de l'enfer est pavé de bonnes intentions, c'est-à-dire qu'on peut penser bien faire. Et on peut être complètement à côté de la plaque parce qu'en fait, on n'en sait rien. Et donc, d'où l'intérêt, d'où la nécessité de se décentrer de ce qu'on pense être bien pour essayer de se concentrer, d'être vraiment à l'écoute et non pas à les convaincre. Et ça, c'est encore un truc. C'est vrai que la culture militante en France est beaucoup sur la conviction et on pense qu'il faut convaincre. Notre boulot en tant que militant et militante, c'est convaincre et que quand les gens seront convaincus, c'est bon, le monde aura changé. Je dis pas que c'est pas vrai, mais en tout cas, ça peut pas être que ça. Et en tout cas, convaincre, ça veut dire être centré sur soi, enfin sur nous, sur nos convictions, et essayer de les amener aux autres. La posture d'éducation populaire, elle est inverse à ça. La posture d'éducation populaire, c'est une posture d'écoute où on va se centrer sur les autres, se décentrer de soi pour essayer de comprendre dans quelle situation sont les personnes avec qui on est. Et puis, c'est aussi se dire que le but de la rencontre, c'est aussi de se modifier nous. C'est-à-dire que c'est réellement avoir besoin des autres. C'est-à-dire que moi, je ne pense pas avoir la solution. Et en fait, réellement avoir besoin de travailler ensemble avec des personnes les plus diverses possibles pour essayer de voir comment on fait, en fait, comment on se sort de ce merdier et comment est-ce qu'on change le monde, etc. Et c'est là aussi où moi, dans le bouquin... j'ai essayé de faire le lien entre plein de choses super que j'ai vues dans plein d'endroits, que ce soit dans des associations, dans des collectifs militants, dans des organisations, etc. Moi, par mon parcours, je suis assez multiculturelle, en fait. J'ai été dans le secteur de la culture institutionnelle, dans l'associatif, dans militantisme, syndicalisme, personnellement, je viens d'un milieu social, Et du coup, essayer de faire le lien entre des mondes qui ont tous des choses hyper positives, tous des défauts aussi, et essayer d'apprendre de toutes ces pratiques qui existent, de tous ces gens qui essayent, qui se battent un peu partout, et que là, je suis en train de finir complètement niaise, quoi. C'est-à-dire que tout ce temps, on va arriver, voilà, non, c'est pas ça. Mais est-ce voilà, que... c'est, ouais. Tout est sans quoi.
On a une question qui est super intéressante, je trouve, qui est, est-ce que c'est justement aux organisations politiques comme l'UCL ou d'autres de faire l'éducation populaire, ou est-ce qu'il vaut mieux avoir des organisations dédiées? Je pense qu'il y a plusieurs manières de répondre à cette question. Qu'est-ce que tu en penses?
Ben pour moi, on ne fait pas de l'éducation populaire. Des lieux sont des éducations populaires ou pas. Et moi, je sais que l'UCL, par exemple, c'est mon cadre d'éducation populaire à moi. Et moi, j'en ai besoin. J'ai besoin de mes réunions hebdo ou bimensuelles pour me retrouver dans un collectif avec des gens avec qui je ne suis pas d'accord sur tout, mais j'ai quand même une base de confiance, avec qui on fait des choses ensemble et après on fait le bilan et on se dit comment on va faire, on essaie d'élaborer des textes, on essaie d'élaborer nos pratiques, on essaie d'être en cohérence entre nos valeurs et nos façons de faire, on se confronte aux questions de fonctionnement, donc aux questions de démocratie en interne, etc. Pour moi, c'est un cadre d'éducation populaire et c'est le mien, en l'occurrence. Et après, c'est pour ça que j'ai envie qu'il y ait plein de gens qui nous rejoignent. Non pas par esprit de chapelle, mais parce que je pense que moi je trouve c'est un super cadre d'éducation populaire, voilà, pour les gens qui y sont et pour tous les gens qui à un moment ont envie de réfléchir avec nous. Et pour moi c'est ça le but, que ce soit à l'UCL ou ailleurs, c'est que les gens trouvent des cadres pour agir et pour réfléchir et pour pas foncer dans le mur, quoi. Et donc, ça peut être l'UCL, ça peut être ailleurs. Bon, il se trouve, mon cœur est à l'UCL, c'est comme ça, mais il y a d'autres trucs qui sont... L'essentiel, c'est pour ça que le bouquin, en fait, il s'appelle « Organisons-nous », c'est que, encore une fois, on ne se libère pas tout seul. On ne transforme pas les choses tout seul, mais on ne se libère pas non plus tout seul et on a besoin de... Je pense vraiment de pratiquer collectivement, de se frotter collectivement dans des cadres à la fois de confiance, donc relativement long terme, on se connaît, etc., et à la fois des cadres qui ne soient pas de l'entre-soi, où c'est trop facile, en fait, parce qu'on se ressemble.
C'est important ce que tu dis, en fait, il y a plusieurs espaces articulés, en fait, il y a ces espaces-là qui sont un peu les nôtres, enfin, qu'on a pu s'approprier et qui nous servent aussi à nous, etc., et puis il y a aussi ce travail à faire d'aller pratiquer, d'aller se donner l'opportunité à nous-mêmes, en fait, d'être dans ces processus d'éducation populaire. Pas de le faire ou de le faire aux autres, mais en tout cas, plutôt d'en créer l'opportunité, l'espace, etc. Et ça, en tout cas, moi, il me semble que c'est justement là-dessus, peut-être qu'on devrait plus se pencher tous et toutes dans nos organisations. C'est-à-dire, peut-être que ces processus, ils sont positifs pour nous, mais est-ce qu'on crée suffisamment les opportunités de le faire autrement que dans ce cadre d'entre-soi? Bon, ça, c'est un challenge pour tout le monde, je pense, mais voilà, j'ai l'impression qu'on devrait tendre un peu vers ça, quoi.
C'est ça, le but, c'est que les processus d'éducation populaire, ils sont là, s'ils servent à quelque chose, c'est à nous transformer collectivement pour transformer le monde, et du coup, c'est créer le plus de cadres possibles qui soient des cadres de transformation collective, transformation individuelle, collective et sociale, puisqu'encore une fois, ce triangle, on ne peut pas séparer l'individuel du social, du collectif et de la transformation sociale. Donc, ça veut dire des collectifs qui vont avoir un enjeu de transformer la société à diverses échelles, mais voilà.
Ok. On a une toute dernière question peut-être à répondre rapidement, et puis après, je pense qu'on arrive à la fin. Question qui recoupait un petit peu ce qu'on disait sur les lieux tout à l'heure, et qui demandait est-ce que c'était pertinent qu'il y ait des lieux un peu dédiés à l'éducation populaire, à ces processus-là. Est-ce que ça élude pas un peu d'autres dimensions politique. Bon, je pense que tu vas pas forcément faire de différence entre les deux, mais tu veux répondre.
Ouais, encore une fois, il y a aucun lieu qui est parfait et les lieux de lutte, du coup, de temps en temps, ils mettent, ils ont besoin de mettre l'urgence de la lutte avant l'importance de la cohérence entre les fins et les moyens. Enfin voilà. Les lieux d'éducation populaire, aujourd'hui, c'est beaucoup les associations subventionnées et du coup, bah, qui vont pour le coup pas être dans la lutte. Il n'empêche que pour bah, plein de jeunes, plein d'adultes, moi, je trouve les centres sociaux, c'est alors il n'y en a pas deux pareils, hein, mais il y en a plein qui sont absolument géniaux. C'est des lieux importants, je pense. Et voilà, et je pense que j'ai pas envie d'hiérarchiser ces endroits-là. Ils ont tous des objectifs différents, mais complémentaires, quoi. Et là, je redeviens complètement niaise sur mon truc.
Ouais, mais comme tu disais, c'est parce que c'est une pratique et pas une sorte de somme d'outils clés en main. Et du coup, l'éducation populaire, ça a lieu de manière transversale dans plein d'espaces matériels ou pas.
Exactement.
Voilà. Je pense qu'on peut conclure là-dessus. Ça nous fait beaucoup de choses à réfléchir pour tout le monde, je pense. Merci pour vos questions. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là. Donc, bah, moi, évidemment, je vous encourage à fond à lire le bouquin d'Adeline parce que là, on a beaucoup discuté, mais on a fait qu'effleurer vraiment encore ce qu'elle développe dedans. Et son livre, elle est super claire à lire. Et voilà, et je trouve que c'est important d'avoir des livres un peu avec un aspect pratique comme ça et où les aspects théoriques et historiques, c'est juste des petits encadrés pour nous apprendre à comprendre cette réflexion sur nos pratiques et pas l'inverse. Donc, voilà.
Et ben, un grand merci à toi, Irène, et un grand merci à Radio Pirate.
Merci, on dit bonne soirée à tout le monde, alors.
Bonne soirée.
Salut.
Salut.
Las calles que tienen los jueces y los judiciales, hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas, a cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen, no olvides sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las compas marchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres luchando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida.
Que resuene fuerte,
nos queremos vivas,
que caiga con fuerza
el feminicida.
Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa. Soy Ingrid, soy Fabiola, soy Valeria.
Soy la niña que subiste por la fuerza.
Soy la madre que ahora llora por sus muertas.
Y soy esta que te hará pagar las cuentas.
Justicia, justicia, justicia.
Por todas las compas marchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas.
Justicia, gritamos por cada desaparecida.
Que resuene fuerte,
nos queremos vivas.
Que caiga con fuerza
el feminicida.
Que caiga con fuerza
el feminicida.
Y retiemblen sus centros la tierra al sonoro. retiemblen.